السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيخ خير شيخ سور الإسلام، nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir dans ces derniers jours du mois de Ramadan pour essayer de fortifier notre foi. On peut se poser la question, est-il encore nécessaire de chercher des moyens pour renforcer notre iman? Qu'est-ce qu'on a besoin d'apporter encore après avoir passé bientôt 27 jours dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, en jeûnant le matin, en priant la salat al-tarawih, de très longs raka'at le soir, en enchaînant avec le namaz tahajjud, en enchaînant avec une action qui est aimée par Allah et qui est bénie par les anges, le suhur, en enchaînant avec la salat de fajr accomplie à la masjid, le ishraq, et ainsi de suite, c'est-à-dire un rythme spirituel parfait, un rythme spirituel pour lequel on ne peut trouver, on a du mal à trouver une amélioration. On a vraiment, mashallah, l'impression qu'en termes de a'mal salihah, de bonnes actions, on a bien avancé. Et c'est peut-être le cas et qu'Allah accepte. Également en termes de ma'asi, de péché, d'une façon générale, le croyant, dans le mois béni de Ramadan, il fait très attention. Il prend beaucoup de précautions. Parce qu'Allah Azza wa Jal a mis dans le cœur de chaque musulman, chaque mu'min, chaque mu'mina, l'importance, le hurma, l'importance du mois béni. D'une telle façon que le croyant qui vit ce mois Ramadan et qui avait certaines mauvaises habitudes en dehors du mois béni, mais il s'en éloigne complètement. Parce qu'il réalise que ce mois-là, c'est un mois sacré et je ne peux pas me permettre de développer les mêmes erreurs et d'avoir recours aux mêmes perversités qu'en dehors du mois béni. Donc d'une façon générale, nous sommes maintenant assidus aux 5 salats depuis 27 jours en jamaat pour les messieurs, au namaz nafil, et on pensera particulièrement au salat de tahajjud, namaz ishraq et tous les autres namaz nafil. On est assidus depuis 27 jours au carême, bien sûr, de façon consciencieuse, avec contrôle du regard, contrôle de la parole, contrôle de ce qu'on écoute, de chaque gestuelle, contrôle même des pensées. C'est-à-dire des thématiques qu'on a l'habitude d'entendre concernant la perfection du jeûne. Mais alhamdulillah, plus ou moins, chaque croyant fait des efforts pour aller dans ce sens. Il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui fait carême et qui se dit que je le fais comme ça parce que c'est une tradition, mais de le fond, ça ne m'intéresse pas. Ou... Non, chaque musulman donne de l'importance et fait de son mieux pour passer une bonne journée et passer une bonne nuit. Combien de personnes, on ne peut pas demander parce que ça c'est dans l'intimité entre nous et Allah, mais si on voulait faire un recensement, combien de personnes s'est réveillées hier soir, nuit du 27e pour faire la tahajjud, je pense qu'on serait presque à 100%. Parce que chaque musulman réalise que ce sont là des rendez-vous spéciaux, ce sont là des rendez-vous uniques avec Allah Azza wa Jal, on ne peut pas les laisser passer. Donc nous sommes habitués au tahajjud aussi depuis à peu près 27 jours. Nous sommes habitués au dua. Et le prophète dit qu'à dua huwa al-ibad. Le dua, c'est l'invocation par excellence. Il n'y a pas meilleur signe de soumission à Allah Azza wa Jal que de l'invoquer, que de l'implorer, que de le supplier de nous accepter, de le supplier de nous pardonner, de le supplier de nous accorder ce qu'il accorde au meilleur des croyants, de le supplier d'accepter nos saumes, nos carèmes, malgré les manquements, de l'invoquer par ses noms, par ses attributs, et reconnaître devant lui « Abu ulaka bi ni'matika aliyya wa abu ulaka bi dhanbi faghfir li Allah 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 faghfir li fa innahu la yaghfir adh-dhunuba illa ant » et reconnaître dans l'obscurité de la nuit lorsque personne ne nous entend, reconnaître « Ya Allah, tu m'as comblé de bienfaits, tu m'as tout donné Ya Allah, la santé, la foi, la santé, la famille, les enfants, le travail, la subsistance halal, la possibilité de faire ce que je veux dans ma vie. » Mais Ya Allah, je commets régulièrement des erreurs. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Wa abu ulaka bi dhanbi. Ya Allah, je reconnais que durant toute l'année, je fais telles erreurs. Et là, il ne faut pas hésiter. Dites Allah Azza wa Jal. Le seul qui doit entendre et qui peut entendre nos péchés, c'est le Khaliq, c'est le Créateur. De notre dîn, La relation entre le serviteur et Allah Azza wa Jal, c'est une relation directe qui ne transite par personne. Ni alim, ni fundi, ni shuyur, personne. C'est une relation directe et c'est une grande ni'ma qu'Allah nous accorde. Donc c'est quand on est seul devant Allah Azza wa Jal, c'est là que le iman bil ghaib, c'est là que la foi en l'invisible s'illustre. C'est là qu'on voit ceux qui croient. Ceux qui croient au tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yarak hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin parce que innahu huwa as-sami'u al-'alim. Celui qui croit, mashallah, qui a conviction que quand je me mets debout là pour faire tahajjud, Allah me voit, m'observe. Quand je fais le ruku', Allah est en train de me regarder. Quand je me relève, Allah me voit. Il y a des fois qu'on fait tahajjud. Qui n'a pas déjà fait 3 sijdat de tahajjud? Dites-moi. Qui n'a pas déjà fait 3 sijdats parce qu'on s'endort dans un sijdat? Ça arrive à plein de gens. On est tellement fatigué parce qu'on n'a pas l'habitude de faire tahajjud. Et Allah ait pitié de nous. On est tellement fatigué parce qu'on a travaillé toute la journée, jusqu'à 18h. On arrive juste pour casser carême. Dès qu'on est épuisé, Allah il connaît notre sacrifice. Allah Azza wa Jal sait que nous ne sommes pas dans Haram Sharif, Makkah, Madina, où nous nous consacrons essentiellement au trajet entre l'hôtel et Haram Sharif. On n'est malheureusement pas de ce cas de figure. On travaille, on a des responsabilités familiales, professionnelles. Et malgré ça, ce sommeil qui est précieux le soir. Si je n'ai pas mes 5 ou 6 heures de sommeil, le lendemain au bureau ou au travail, c'est difficile. On a du mal. Vous savez, vous croyez qu'Allah ne connaît pas tout ça? Vous croyez qu'Allah nous considère comme des gens qui sont en train de faire un tikab dans Haram Makki Madani, qui eux ils peuvent passer vraiment toute la nuit parce qu'après le lendemain ils peuvent se reposer et tout? Allah connaît chaque personne. Allah Rabbul Izzah connaît l'intérieur de chacune de ses créatures et Allah agit avec chacune de ses créatures d'une façon particulière. Allah nous traite chacun de la façon qui correspond à nos besoins, à nos manquements, à nos faiblesses, à nos qualités, à notre degré de iman, à notre degré de ilm. Et donc, dans ces moments, qu'on n'hésite surtout pas à dire à Allah Azza wa Jal tout le mal qu'on a pu faire depuis l'année dernière. Faut pas hésiter à dire. On dit à Allah, l'année dernière, j'ai demandé pardon, j'ai demandé tawbah, j'ai fait un tikaf, j'ai passé des nuits dans le doua de tahajjud, des nétiens de la nuit. Certainement, tu m'as pardonné. Ya Allah, j'ai fait le hajj, peut-être. Certainement, tu m'as pardonné, mais au retour, j'ai recommencé. Ya Allah, je suis désolé. Et on demande pardon avec beaucoup de ikhlas et de sincérité. Ben, ces qualités, ces sifat-là, ce sont les qualités que nous devons retrouver en nous. C'est ce qu'on appelle faire vivre un Ramadan. Faire vivre le cœur durant le mois béni. Ikhwani fillah, quand on parle de Ramadan, on ne peut s'empêcher de parler du tazkiyah, de la purification intérieure. Parce que ce amal, ce pilier de l'islam, c'est par excellence le pilier qui a pour objectif de purifier le cœur de l'homme. La zakat purifie quoi? Dites-moi. L'argent. Ça purifie les biens. Ça purifie le cœur aussi. Ça, c'est un autre notre sujet qui est aussi magnifique. La salat, ça te permet d'avoir le contrôle sur toi. Le hajj, c'est un investissement financier, mais c'est une action qu'on accomplit qui est très physique. C'est un mujahada. Le ramadan, certes, il y a le côté physique, mais le ramadan, c'est l'action pour le cœur. Parce que quand le prophète me dit que dans le corps de l'homme, il y a un morceau de chair. S'il va bien, tout va bien. S'il y a un problème de ce morceau de chair, ça va pas. Et ça va pas même si en apparence, tout va très bien. Même si en apparence, mashallah, comme les Arabes disent, la barbe elle fait 20 cm. Qu'elle soit noire, comme la mienne, ou blanche, comme a dit Sam. Qu'Allah vous accorde longue et fait pas un. Qu'on soit présent, qu'on porte un grand nom. Je ne vais pas dire les noms de famille de Saint-Louis, ben avant tout au moins, qu'on porte un grand nom, qu'on ait le titre de Hafiz Quran, qu'on ait le titre de Ali Mufti, ou peu importe. Il y a des fois où on a l'impression que tout est parfait. Mais attention, si de ce que là, il y a des manquements, ben le problème c'est quoi? C'est que peut-être les actions sont présentes, mais la qualité ne suit pas. Ou que peut-être on ne fait pas de gros péchés, de graves péchés. Tous les péchés sont graves. Mais on ne fait pas des péchés apparents. On ne va pas en boîte de nuit, on ne boit pas d'alcool, on ne fume pas de zamal, on n'accomplit pas l'adultère, on n'utilise pas l'argent haram de la banque, l'intérêt. Mais il y a peut-être d'autres choses intérieures qui nous détruisent, qui nous minent, qui nous détruisent spirituellement. Donc on a vraiment besoin de ce saum, parce que ce rosa, ce carême, ce mois de Ramadan, c'est une action qui va te secouer, qui t'éloigne de Shaitan, qui éloigne Shaitan de toi plutôt, qui affaiblit ton nafs et qui te livre à ton Seigneur. et qui te livre à ton propre intérieur, où tu vois vraiment ce qu'il y a dedans. Parce que se réveiller à 2h, 2h30 du matin pour implorer Allah Azza wa Jal, c'est là qu'on voit est-ce que la connexion elle a lieu ou elle n'a pas lieu. C'est là qu'on voit un peu tout ce qu'il y a comme degré de concentration, de dévotion, de khushu', de khudu', de sincérité, d'investissement, de soumission à Allah. C'est là qu'on voit vraiment l'état de ce cœur. C'est un ni'ma, c'est un bienfait de la part d'Allah. Il y a certaines personnes qui mettent en avant le bienfait du jeûne pour la santé. On va les laisser dans le débat. Tant mieux si ça peut apporter quelque chose. Mais c'est pas ce qu'on recherche, nous. Nous, on recherche ilajul qalb, la purification du cœur par le biais du jeûne. Et on est au 27e jour de ce parcours spirituel. On est habitué à la lecture du Coran. Jamais on ne lit autant que durant le mois de Ramadan. Et on est habitué également au dhikr. On essaie de faire le dhikr le plus possible. Et donc, après 27 jours, nous avons tous en nous une lumière, un nour. Nous avons avancé. Nous avons fait un pas important dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, tant dans les qualités intérieures, en termes de sincérité, soumission, dévotion, dans les actions extérieures, les ibadah, namaz, dhikrullah. Également, troisième point, par le biais du retour vers la source, c'est quoi la source? Quran. On est connecté au Coran toute la journée, parfois la nuit aussi. C'est-à-dire que le cœur du croyant, il est avec le Coran, c'est la source. Donc tout ça, ça nous fait du bien. Et par la proximité que nous avons avec les gens. Elle se traduit comment cette proximité? La sadaqa, l'aumône, donner à manger, permettre aux gens de rompre le jeûne avec nous, la fitra qu'on va donner le jour de Eid. Tous ces paramètres sont réunis pour que nous progressions de notre iman et que nous montons en grade auprès d'Allah Azza wa Jal. Et encore une fois, on doit être conscient qu'il y a des manquements en nous. Que même si on a passé la nuit en ibadah, mais le degré d'implication spirituelle n'est pas encore atteint. Mais, encore une fois, comme on l'a dit dans tous les programmes, intérieurement, on doit être sûr. Il faut que dedans, on est sûr et certain qu'on a tout donné. Et que s'il restait encore un petit effort, si on était encore capable de passer un peu plus de temps de le tahajjud, ou lire un peu plus de Coran, ou ainsi de suite, on l'aurait fait. Mais on n'arrête pas tant qu'on n'est pas sûr que je suis au maximum dans mon investissement, dans mes actes d'adoration envers Allah Azza wa Jal. Maintenant qu'on est à quelques jours de la fin du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on espère? Ben on espère que cette lumière qu'on a accumulée, qu'elle reste. Et que cette lumière nous permet d'avancer encore et encore. C'est pas qu'après le mois de Ramadan on s'arrête totalement. Et on a grandement besoin de garder le cumul de taqwa qu'on a en nous. Le capital taqwa, piété, qu'on a cumulé depuis 27 jours par le biais de toutes les actions qu'on a citées, ça nous booste sur le plan spirituel. C'est ça la lumière dont on parlait. Il faut faire en sorte que cette lumière-là, elle reste. Et qu'elle ne s'effrite pas, qu'elle ne s'éteint pas après le mois de Ramadan. Et les savants disent que la meilleure action et la meilleure période justement pour développer la taqwa, plus que n'importe quelle autre action, c'est le jeûne du Ramadan. Maintenant, les actions qu'on a accomplies, on a cité tout à l'heure, les qualités intérieures. Ce qui est important, c'est qu'il nous reste 3 jours, à peu près. Et dans ces 3 jours-là, on peut faire encore pas mal de choses. Mais également, on doit être capable d'analyser les 27 jours qui viennent de, les 26 jours qui sont terminés. Et on essaie de voir chaque action qu'on a accomplie et qu'on est en train d'accomplir et qu'on va accomplir, est-ce que, et ça c'est ça c'est quelque chose d'extrêmement important. On a besoin de voir, d'analyser ces actions et chercher, est-ce que je retrouve 5 qualités intérieur dans les actions. Je ne parle pas d'être en état de wuzu, d'avoir mis de beaux vêtements, parfumés. Ça, c'est extérieur, ça. Même si certains sont chambres, c'est obligatoire. Mais là, on parle pas de ça. On parle de tout ce qui est dans ton cœur. Et vous avez compris, la première des qualités, c'est quoi? Quand on fait une action? La sincérité, l'éclat. Et ça, c'est une analyse personnelle. On ne va pas dire à quelqu'un, voilà, je fais comme ça, est-ce que c'est bon? Chacun analyse ses actions, ses tahajjud, ses lectures Coran, premièrement. On doit voir, est-ce que dans mes actions, il y avait la sincérité? Et comment on peut définir la sincérité? Est-ce qu'à chaque fois, et au-delà de, vous savez, la définition de sincérité que nous avons très souvent, C'est quand tu vas faire une action, fais-le pour Allah, ne le fais pas pour les gens. Ça, c'est le premier palier. Parce que ce premier palier-là, ben, si tu le rates, l'action n'a pas de valeur, on est d'accord. Si c'est pas sincère, c'est par ostentation, c'est rien. Donc l'action n'est même pas validée, n'est même pas acceptée par Allah. Mais on parle pas de ça. Parce que ça, en général, il n'y a personne qui vient faire namaz tarawih pour montrer aux gens. Il n'y a pas, honnêtement. On parle d'un autre degré d'ikhlas. Lorsque notre prophète, lorsque Allah Azza wa Jal, il révèle les versets de la sourate Yusuf, il y a un tafsir qui est magnifique, de lequel Allah Azza wa Jal qualifie Yusuf alayhi salam de Innahu min ibadina al-mukhlasin. Certes, on a reconnu le terme ikhlas. Donc on peut se dire que c'était un serviteur élu qui était sincère pour Allah Azza wa Jal. Certains mufassirines, des contemporains, ils donnent, peut-être des anciens aussi, un tafsir magnifique que Yusuf alayhi salam, il n'était pas seulement sincère dans ses actions, il était sincère dans toute sa vie. C'est-à-dire que toute sa vie, il a donné pour Allah. Ça, c'est le summum de l'ikhlas. Donc quand je vous dis, quand on doit se dire, je ne vous dis rien, on se dit, parce que c'est un rappel mutuel, qu'on analyse nos actions. Ce n'est pas uniquement les actions une par une. Est-ce que c'est pour Allah ou pour faire voir les gens? Parce que ça, on n'est même pas à ce niveau, normalement, inshallah. On a besoin de voir les actions qui composent notre journée et les journées qui composent notre vie. Est-ce que mon objectif premier, c'est l'illah, où je suis à la recherche d'autre chose? Si avec Allah, j'ai d'autres objectifs qui sont du même niveau, c'est pas bon du tout. Même si dans les actions, je suis sincère pour Allah, il n'y a pas de riya, il n'y a pas d'ostentation. Mais si dans mon cœur, je donne autant d'importance à ma relation avec Allah que ma relation avec les gens, il y a un problème. On parle de priorité. Istikhlas al-hayatulillah. Al-hayatulillah. C'est que tu voues toute ta vie à Allah Azza wa Jal. C'était là une des qualités de Yusuf alayhi salam. C'est un des objectifs du Ramadan. Quand tu démarres ta journée depuis le matin, depuis quelle heure? Depuis le matin, je ne sais pas si ça s'appelle le matin ou le soir, depuis dans la nuit. Et comme on l'a dit, tu enchaînes avec le sehri, le fajr, le ishraq, le dhikr, jusqu'au soir. N'est-ce pas là un cycle de presque 18 heures sur 24, c'est pour Allah? Et même quand on dort, si on dort avec le niyat de se reposer pour se réveiller plus frais le matin, c'est considéré comme ibadah. On pourrait dire que les 30 jours de carême, c'est 30 jours de itikaf. C'est depuis le début jusqu'à la fin, c'est pour Allah. Ça, c'est ce qu'on appelle namoudaj. C'est un entraînement. Maintenant, il faut voir un peu plus haut. Il faut essayer de remonter un peu le niveau. Jusqu'à quand on va tourner? Jusqu'à quand on va tourner avec 5 namaz? Nos piliers, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais jusqu'à quand est-ce que on va se contenter du strict minimum par rapport à la valeur et au rayonnement spirituel de ces actions? Quand est-ce qu'on va essayer d'avoir le vrai nour, la vraie lumière qui nous est promis à travers ses actions? Lumière que les sahaba, ils l'avaient. 2 rakats accomplis par un sahaba. 2 rakats accomplis par nous. Il n'y a même pas besoin de continuer la phrase. On a compris. Quand Abou Bakr al-Siddiq donne un morceau de date dans le chemin d'Allah, et que nous on donne 1 kilo de date, c'est pas comparable. Parce que derrière cette action de sahaba, il y a un vécu spirituel. Il y a une base, il y a un socle, il y a un amour pour Allah, un investissement, une sincérité, un istislam, une soumission à Allah qui donne de l'ampleur à cette action, quelle que soit la quantité. Quand Abu Bakr al-Siddiq aide les musulmans lors de la campagne de Subhanallah, de Tabouk, et que d'autres sahaba comme Uthman, il amène une partie de ses biens, mais cette partie c'est une richesse phénoménale. Ce qu'Abou Bakr amène, c'est moins important, oui ou non? Il y a moins de valeur. Mais il y a plus de cœur que n'importe qui réuni. Parce que quand il amène tout. Il ne se pose pas de questions. Et quand le prophète me dit, tu es sûr? Tu as laissé quoi pour ta femme et tes enfants? Il a dit, j'ai laissé Allah et son prophète. Ce n'est pas des paroles de grand saint qui veut juste t'impressionner. Du tout. C'est que dedans, c'est yaqeen, une conviction. Que Allah veille sur ma famille, mes enfants. J'ai pris tout ce qu'il y avait, j'ai amené pour aider la Oumma. Ce niveau-là, on n'arrive pas à comprendre encore. C'est très compliqué. Si quelqu'un vient pour un projet de masjid ou ailleurs, tu dis à la personne, prends ce chèque blanc, va voir combien j'ai et prends tout. Voilà ma carte, prends tout, ça c'est pour Allah. Personne ne peut faire ça de nos jours. Ne faites pas non plus, parce que notre degré de tawakkul n'est pas suffisant en Allah pour qu'on puisse obtenir encore plus. Je veux dire que le niveau, il est comme ça. Le décalage est ainsi. vous ta vie à Allah Azza wa Jal durant les 11 autres mois de l'année, comme durant ce mois béni, tu passais tes journées et tes nuits pour Allah. Chaque minute, chaque seconde, et je n'exagère pas, les pieux prédécesseurs, leur fikr permanent, chaque instant, c'était est-ce que je suis dans l'obéissance ou dans la désobéissance? Est-ce qu'à ce moment, Allah est satisfait de moi ou Allah n'est pas satisfait de moi? Ça, c'est la meilleure des définitions de la piété. أن تجعل بينك وبين الله حجاب. Mais une séparation entre toi et la colère d'Allah. Ne te mets jamais dans une situation où Allah serait mécontent de toi. Une analyse parfaite de tous les instants, de chaque moment de ta vie. Il n'y a pas le moment la mosquée, le moment magasin. Il n'y a pas ça. Dans la mosquée, je vis pour Allah. Dans le magasin, je vis pour Allah. Au bureau, je le fais pour Allah. Et j'analyse chaque fait, chaque parole, chaque geste. Dans le Ramadan, en dehors du Ramadan. Quand je vais au Hajj, quand je retourne du Hajj. Ma vie, c'est pour Allah. Ça, c'est le plus haut degré de ikhlas. C'est pas juste que ton amas, tu l'as fait pour Allah avec sincérité. C'est que ta vie, tu l'as fait pour Allah et uniquement pour Allah. Et que tout ce qui gravite autour, c'est secondaire pour toi. Rien ne compte plus que Allah Azza wa Jal. On doit arriver à cette situation. Auto-analyse, chacun voit qu'est-ce que je suis, où est-ce que je suis arrivé dans cette qualité spirituelle après 26 jours de jeûne, 27 jours, et comment est-ce que je peux progresser encore à travers ces 3 jours et dont une nuit impaire, et comment est-ce que je peux garder ce cap après le Ramadan. Parce que quel bonheur que de rencontrer l'ange de la mort avec cet état d'esprit. Quel bonheur que Malek al-Mawt, si Malek al-Mawt vient, il reprend l'âme de quelqu'un qui a été kaf maintenant. N'est-ce pas là le plus heureux des hommes, oui ou non? Il est pour Allah, il fait subhanallah et de l'ibadah. Dans l'obéissance, il est à l'abri de tout ce qui est haram. Retourner auprès d'Allah, sachant qu'on est ressuscité dans l'état où on a quitté ce dunya. Ou quelqu'un qui meurt dans le tawaf, ou pendant le wukuf Arafat, ou dans le sijda de tahajjud. N'est-ce pas là des cadeaux de la part d'Allah? Faisons en sorte que lorsque l'ange de la mort prend notre âme, même si on n'est pas en train d'accomplir une action particulière, même si c'est sur notre lit à la maison, ou qu'Allah nous protège sur un lit d'hôpital, mais qu'on est dans un état spirituel, où on a voué corps et âme, chaque instant de ma vie, pour Allah Azza wa Jal. Et parmi les questions auxquelles on n'échappera pas le jour de Qiyamah, les questions, qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Qu'est-ce que tu as fait de tes biens? Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Qu'est-ce que tu as fait de ta connaissance? Et qu'est-ce qu'il fallait en faire? Tout consacrer à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la bonne réponse. Ça, c'est l'homme qui se distingue le jour de Qiyamah. Et là, on a encore la possibilité de redresser la barre. On a encore la possibilité de demander, de canaliser notre attention, nos objectifs, nos priorités vers Allah. Mais c'est là une réaction de foi qui est normalement basique, sachant qu'on a un rendez-vous avec Allah. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. On sait, tout le monde à l'Assemblée sait qu'un jour l'ange de la mort se présentera à nous. Personne n'est resté éternel de ce dimanche, ça on le sait. C'est basique ça. Mais sachant qu'on a ce rendez-vous, pourquoi ce voile devant nos yeux? Qui fait qu'on se fixe beaucoup de priorités avant le dîn. Qu'en dehors du Ramadan, je suis prêt délibérément à ne pas faire mes 5 salats ou à faire kaza. Et on se dit que c'est pas grave, c'est pas grave. C'est toi qui dis c'est pas grave. Ton Seigneur qui a révélé ses prières à Mouhammad, qui l'a donné en cadeau lors du voyage nocturne. Il a dit que ça c'est le plus important pour la vie d'un croyant. Donc, cette prise de conscience, on peut appeler ça un éveil spirituel. Cet éveil spirituel est essentiel. Parce que si on ne l'a pas paramétré, même si durant le mois béni on roule à 180 lieues avec beaucoup de bonnes actions, du moment qu'on arrête la machine après le Ramadan, c'est terminé, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce qu'on a manqué le istiqama. Vous savez, le istiqama, souvent on parle de istiqama. C'est un mot facile à prononcer, ça. Mais le istiqama, c'est l'aboutissement de toutes les qualités intérieures. Parce qu'un homme reste ferme de le tahajjud dans tous ses amals après le mois béni, qu'à partir du moment où son cœur est conquis. Où la réalité de la foi est entrée dans le cœur. Vous connaissez le verset? قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Parce que ولما يدخل الإيمان, la foi, les vraies qualités de la foi n'étaient pas encore entrées dans les cœurs de ces bédouins qui étaient auprès du prophète et qui pensaient être des croyants pieux en ce sens. Le prophète dit que non, vous avez accepté, mais ce n'est pas encore dedans. Et ensuite, certainement, ils ont développé ces qualités. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un niveau très basique. Et on a juste à analyser dans les moments de difficulté, est-ce qu'on s'oriente vers Allah ou d'autres. Ça nous donne un aperçu de notre niveau spirituel. Donc, premier enseignement de ce mois béni, Khwani, Akhawati Fillah, analysons, est-ce que, pas uniquement nos actions étaient sincères, mais est-ce que notre vie, notre moi était sincère pour Allah en entier? C'était notre fikr, assasi, essentiel. Et est-ce que, après ce mois béni, je suis prêt à vouer toute ma vie pour Allah, Azza wa Jal, qu'Allah nous accorde cette qualité? N'oublions jamais que là, on est protégé. As-siyam junna. Le jeûne est un bouclier. Shaitan est enchaîné. Le nafs est affaibli. Mais le lendemain, après le mois de Ramadan, on retourne dans l'arène. Et cette arène, c'est Hayat al-Dunya. La vie de ce monde et ses réalités et son mode de fonctionnement. Et là, ce qu'on a, est-ce qu'on a maintenant Taravi après le Ramadan? Non, Taravi, c'est fini. Mais ce Ikhlas, Al-Hayat il-Illah, c'est ça que tu amènes. Et si tu l'as intégré, tu le vis depuis 27 jours, après le Ramadan, tu retournes pas vers tes péchés. Parce que tu as compris que tu as un objectif. Voilà donc une première qualité qu'on doit essayer, Inch'Allah, de développer. Deuxième qualité, les autres, on va aller un peu plus vite. Deuxième qualité du cœur, on appelle ça A'mal al-Quloub, la pensée permanente d'Allah, Muraqabatullah. Ça rejoint un peu le premier point. Chaque instant, tu es conscient qu'Allah te voit, t'observe, et c'est ce qu'il y a de ton cœur. Et le Ramadan est également un entraînement. Quand tu as faim, tu ne manges pas parce que tu sais qu'Allah te voit, et ainsi de suite. Tu ne fais pas tel péché parce qu'on sait que Allah, même on évite les mauvaises pensées, parce qu'on sait qu'Allah sait ce qu'il y a dans notre cœur. On essaie d'être le plus clean possible. Et quand on fait le niyat, Allahumma inni asumu ghadan laka, quand on fait le niyat, oh Allah, aujourd'hui je jeûne pour toi. C'est un engagement. Tout ça, cet engagement et ce regard d'Allah, tu peux le faire à partir du moment où tu as la conviction qu'Allah te voit, t'entend, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et ça, on le vit tout le temps. Ces 27 jours de Ramadan, on vit avec ce regard d'Allah sur nous. Et ça, cette réaction de foi, cette qualité qui est le muraqabatullah, on doit le garder. Et essayer de le garder dans notre cœur pour qu'après le Ramadan, on a toujours la conviction qu'Allah me voit, qu'Allah m'entend, qu'Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur et que les anges inscrivent chacune des actions. Pensez-vous une seconde que la personne qui l'a intégré, il retournera vers ses erreurs? Jamais de la vie. Ça, c'est des qualités qui restent. Et vous savez, toutes ces qualités qu'on est en train de citer là, tu greffes 1, 2, 3, 4 et 5, et peut-être d'autres encore, ça te donne quoi? La taqwa. Kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. L'objectif, c'est de ressortir du Ramadan en essayant, en atteignant le maximum la piété. Et la piété, ça se construit avec les actions qu'on connaît de tous les jours, mais ça se construit surtout avec les actions intérieures, parce que c'est depuis le cœur que les autres actions vont se mettre en application. Ça fait deux. Troisième qualité qu'on a développée durant ce mois et qu'on doit garder, on appelle ça as-sabru 'ala at-ta'a. La persévérance dans l'accomplissement des bonnes actions. Il y a des actions qui sont difficiles. Tarawih, 20 rakat, c'est pas évident. 1h30, 1h, 1h45. Tu habitues ton corps à obéir à Allah. On va aller un peu plus vite. Les savants disent que c'est l'entraînement par excellence pour t'apprendre à sabr ala ta'a. Tu te soumets à Allah dans les bonnes œuvres. Même si ton cœur ne le veut pas, même si tu es fatigué, même si ton nafs t'appelle à faire autre chose, tu dis non, on reste jusqu'à la fin. Il n'y a pas une personne qui, après 4 à 4 jours, est fatiguée, mais ça regarde le match la case. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Parce qu'on sait qu'on est là pour Allah. C'est le mois où on s'investit pour Allah. Donc cette qualité, on l'a en nous. Même si on n'est pas conscient, on l'a développée. Patient, persévérant dans l'accomplissement de bonnes actions, cette qualité-là, garde-la avec toi. Et emmène-la après le mois de Ramadan, durant toute ta vie, tu seras un muttaqi. Là, tu es en train de construire ta personnalité de muttaqi, d'homme pieux. Quatrième qualité, l'avant-dernière, as-sabru 'anil ma'asiyah. Être patient face au péché. Et là aussi, on le fait depuis 27 jours. Il n'y a pas besoin de donner des exemples. On a envie de faire quelque chose qui est haram, regarder ce qui n'est pas bien, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est en état de jeûne. Après, il y a, on ne va pas entrer dans les détails, il y en a qui se focalisent parce qu'on est en état de jeûne, et puis le plus haut degré, c'est que non, Allah me voit, ça c'est le top des tops. Mais cette patience face aux pulsions, ton nafs te dit fais telle chose, mange, regarde, écoute, dis telle parole, prononce telle parole, ainsi de suite, ribat, ainsi de suite, tu te préserves. On a appris à se préserver durant 27 jours. Et ça, c'est une qualité très difficile à acquérir. C'est très dur de résister au péché. Il est beaucoup plus facile de faire des bonnes actions que de dire non au péché. Parce que lutter contre le nafs et le shaitan, c'est un sacré combat. On l'a en nous. C'est dedans. Depuis 26 jours, 27 jours, on doit garder ça. Et si on le garde, après le Ramadan, on sera, Inch'Allah, parmi les muttaqin. Parce que ces qualités-là, qui restent dans le cœur, ça, ça fait de toi un homme pieux, aimé par Allah. Et dernière, c'est pas la dernière, mais c'est la cinquième qu'on a énumérée. La conviction que toute action a un débouché, un natija, un résultat dans l'au-delà. On peut appeler ça l'ihtisab. C'est-à-dire que quand on fait une action, on est persuadé qu'on va la retrouver auprès d'Allah Azza wa Jal, dans le mizan, dans la balance. Donc on s'applique. Un exemple, deux hadiths qui vont dans le sens du somme, du carême, et qui nous fait prendre conscience qu'on y croit quand notre Seigneur, à propos du Ramadan, dit « As-siyamu li wa ana ajzi bihi » que c'est moi qui en rétribue. Allah Azza wa Jal s'est fait la promesse de rétribuer, de récompenser personnellement le jour de Qiyama. Ben on y croit, Dieu a comme faire. Également, quand le prophète Sassam nous explique que parmi les portes du paradis, il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan, qui est réservée aux jeûneurs. On y croit, Dieu a comme faire. On a une conviction inébranlable et on a espoir d'entrer dans le Jannah par cette porte. C'est-à-dire que, avec ces deux hadiths, on arrive à faire un lien entre ce que je suis en train de faire et ce que je peux obtenir là-haut. Et ce lien, c'est essentiel pour bien accomplir les bonnes actions. Il n'y a rien de plus déplorable que quelqu'un qui prie, qui fait des bonnes actions, sans comprendre ni le début, ni la fin, ni le pourquoi, ni l'objectif, et ni les qualités que cette action doit m'apporter. Le pilier, il l'a fait, il a prié, il a fait ce qu'il devait faire, le devoir est accompli, mais ça ne lui apporte malheureusement pas la lumière qui lui est promise à travers l'action. Alors que le musulman intelligent, il fait le lien, il dit que je m'efforce, je m'accroche à cette bonne action pour qu'Allah m'accorde telle chose de l'au-delà. Ça, c'est une qualité qu'on a développée à travers ces deux hadiths. Nous savons que les moments de difficulté, qu'on est fatigué ensuite en état de jeûne, ben Allah va nous récompenser là-haut. Gardons cette logique spirituelle de lien entre les actions et l'au-delà, parce que si on a gardé ça, ben après le mois béni, on aura encore la motivation de faire la tahajjud, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on obtient de la part d'Allah. Mais c'est dans l'autre sens aussi. On est conscient que le moindre péché, ben on les voit, on le voit le jour de Qiyam. Et celui qui a cette conviction que quand j'accomplis un péché, il me le sera présenté le jour de Qiyama, assurément la personne réfléchit à deux fois. Il suffit de réfléchir juste sur فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَى. Celui qui a amené un atome de bonne action le verra. Il le verra où? Dans la balance. Et celui qui a amené un atome, un tout petit péché que nous considérons comme petit, il le verra également. Si on arrive à intégrer ces réalités qui nous permettent de faire le lien entre ce dunya, les actions, les choix, les décisions qu'on prend et l'au-delà, nous allons ressentir grandi. Nous allons ressentir parmi les muttaqin, inshallah, qu'Allah nous accorde ces cinq qualités intérieures pour propulser toutes les bonnes actions qu'on accomplit. Maintenant, imaginez, et inshallah, c'est pas imaginer, maintenant qu'on avance avec ces actions intérieures, ces qualités de foi intérieure, et avec ça, les actions qu'on accomplit régulièrement. Et qu'après le mois de Ramadan, on reste ferme dessus. Automatiquement, on a l'istiqama. Parce que quand on a ces qualités intérieures, ça nous amène vers la fermeté, vers l'istiqama, vers la continuité de ces bonnes actions. Maintenant, si on a istiqama dans ces qualités intérieures et extérieures, et qu'on fait partie des muttaqis, et qu'on vit dans ce degré de ce degré spirituel, quel degré de iman on atteint? Le ihsan. Le ihsan, c'est le plus haut degré de foi. Et l'ange Jibril avait demandé au prophète sallam à ce propos. Le prophète m'a dit "An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Il y a bien sûr beaucoup de commentaires de muhaddithin là-dessus, en deux phrases, en deux mots. On peut juste dire que l'homme qui a atteint le degré de ihsan, hein, tu vois, quand il prie, c'est comme si qu'il est devant le trône d'Allah. Il a atteint un tel degré de iman, de conviction, et il sait qu'il a le regard d'Allah sur lui, qu'il va parfaire chaque gestuelle de son namaz, chaque parole de sa lecture, et chaque instant, chaque pensée de son cœur, parce qu'il est en train de montrer à Allah, il est persuadé qu'il est devant Allah et qu'il montre à Allah toute sa bonne volonté et tout son amour pour lui. Et de l'autre partie, il est conscient qu'Allah l'observe. Donc, face à une tentation, face à un péché, visible des yeux des gens ou invisible des yeux des gens, peu importe, il sait qu'Allah l'observe. Et donc, il va, mashallah, vivre dans la perfection spirituelle. Ça, c'est le summum de la foi. Ça, c'est notre objectif. On ne parle plus juste de faire 5 namaz après Ramadan. Il faut monter un peu de niveau. On ne parle plus après Ramadan, continuer un peu courant, mais il ne met pas courant de placard. Oui, mais il faut monter, il faut travailler ses qualités intérieures. Pour qu'on devienne vraiment des musulmans pieux. Autrement, on n'aura pas concrétisé cela. Et c'est en développant encore une fois ces qualités-là qu'inch'Allah, on deviendra des muttaqin. Et on va concrétiser l'objectif pour lequel on a été créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِي لِيَعْبُدُونَ كَلَّنْ زَكِيَ Pour son adoration. Et l'adoration, c'est ton corps adore Allah, ton cœur adore Allah, et que tu es pour Allah. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Que toute ta vie c'est pour Allah, jusqu'à la mort. Jusqu'à quand حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Jusqu'à ce que Malik al-Maut vient et reprend ton âme, tu es dans la pensée d'Allah en permanence. Qu'Allah nous accorde cette qualité de retourner auprès de lui avec un cœur qui appartient à Allah et un cœur qui est dévoué à Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Maintenant, la bonne question, c'est que là en ce moment, le bi'a, le contexte, le mahol, il est parfait. Il y a l'ambiance spirituelle, il y a mashallah. Mais après le mois de Ramadan, ça devient plus compliqué. Lorsqu'on retourne aux réalités de la vie, parce qu'encore une fois, on ne vit pas à Makkah, on ne vit pas à Madina. Même si Saint-Louis, c'est quand même mieux que Saint-Denis par rapport à ce que je vois. Mais on vit quand même des endroits, il y a des fitnas, il y a des sources de péché. Mais concrètement, comment rester dans le droit chemin? Il y a des fois, on essaye, hein, on a beaucoup de bonnes intentions. Un jour, deux jours, une semaine après Ramzan, nous continuons fait à Hadjout, on essaie, mais après un moment donné, comme il dit, il largue le corps. Doucement, peu à peu, on finit par perdre ses bonnes habitudes. Qu'est-ce qui fait qu'on finit par reculer, par baisser la garde légèrement? Après le Eid, le contrôle du regard, c'est parfait, mais au fur et à mesure, ça va, ça diminue, malheureusement. De quoi on a besoin pour avoir une fermeté? Qu'est-ce qu'on peut développer? Qu'est-ce qu'on peut apporter à notre iman pour rester ferme? Très simple. Je vous amène vers le premier verset, les premiers versets qu'Allah a révélés et qui nous donnent la ligne de conduite pour arriver au degré des pieux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Même si on n'est pas arabophone à 100%, on a reconnu la racine. Tattaqoun. Il y a la taqwa. Ça m'intéresse ça. Parce que l'objectif du jeûne, c'est de devenir pieux. Et au début du Coran, Allah Azza wa Jal parle des pieux. Première qualité des êtres humains qui est citée, c'est celle qu'Allah attend de nous. C'est dhalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. C'est une guidée pour les pieux. Donc, ce qui va venir juste après, c'est le bayan, l'explication qui sont les pieux. Et là, j'ouvre mes oreilles. Je suis attentif, j'ouvre mon cœur pour savoir. Pour devenir muttaqi, qu'est-ce que je dois réunir? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ça commence direct avec la foi en invisible. Relation avec l'au-delà. Wa yuqimuna as-salata, la prière, wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Et c'est là que ça m'intéresse. Wa bil akhirati hum yuqinun. Parmi les qualités qui sont citées, croire en l'au-delà. Et si on va dans d'autres versets comme la sourate Al-Anfal, d'autres versets par nous dans la sourate Al-Baqara, laysa al-birr an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birr man amana billahi wal-yawmil akhir. La bonté pieuse. Ça m'intéresse ça, non? Al-birr, la bonté pieuse, c'est ce que j'essaie d'obtenir. Ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Ne te focalise pas sur les actions extérieures. Fais comme ça. Certes, ça a son importance, mais il y a autre chose à rechercher. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah. Et qu'est-ce qui vient juste après croire en Allah? Au jour dernier. Et les Mufassirin disent qu'à chaque fois qu'il y a iman billah, il y a iman bil yawm il akhir. Et les savants contemporains, et même parmi les pieux prédécesseurs, disent que le manquement spirituel des musulmans, quelles que soient les époques, et ça s'aggrave plus on avance dans le temps, qu'est-ce qui fait qu'intérieurement on n'a pas une vraie connexion avec Allah? Qu'est-ce qui fait qu'intérieurement on n'a pas ces qualités intérieures, ces qualités de foi, des amal al-qulub? C'est qu'on n'a presque aucune conviction ou trop peu de iman sur l'au-delà. Ça se limite à la résurrection, au paradis, l'enfer, mais rien de plus. Alors que, et là on va un peu plus vite, les savants disent que si chaque musulman prenait du temps pour apprendre son dîn, là on parle du ilm, là on rentre du lourd, pour apprendre la connaissance, pour acquérir la connaissance religieuse, pour connaître un de ces piliers de la foi, une de ces branches de la foi qui est al-iman bil yawm al-akhir, ça changerait tout et ça réglerait l'intégralité des problèmes. Tous les manquements qu'on a cités au début là, ça crée de frustration ça, oui. Parce qu'on se dit que, hop, il est vrai, je ne l'ai pas ça. Ça je ne l'ai pas, je n'y ai jamais pensé. Ben c'est vrai, j'ai pas ça en moi. Donc on se dit que ben ça veut dire quoi? On est mauvais? Ça veut pas dire qu'on est mauvais. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Mais nous on a l'impression qu'on est bon. Faut jamais se dire qu'on est bon. Faut jamais se dire que, comme on a une belle mosquée, elle est magnifique votre mosquée, je le répète encore, si on a une magnifique mosquée, on a tout ce qu'il faut, ça veut dire qu'on est bon. Ça ne veut rien dire. Retournez vers l'Espagne, Andalous. N'avait-il pas des mosquées plus belles que votre mosquée, Al-Mubarak? N'avait-il pas tout ce qu'il fallait comme organisation? N'avait-il pas un Baytul Mal? Mais il y avait des manquements. On peut avoir tout ce qu'on veut sur le plan bâtiment, ainsi de suite. Si l'intérieur n'est pas solide, tout peut s'écrouler très rapidement. Et on peut perdre les efforts de génération et de génération, et qu'Allah nous protège. Donc, si on veut que les réalités de la foi entrent dans le cœur, il faut absolument connaître l'au-delà. Parce que l'au-delà, ben, c'est la finalité, c'est le but de ta création. Quand tu dis, qu'on dit que « وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ اللَّهِ » On retourne auprès d'Allah, mais c'est où? C'est dans l'au-delà. Où Allah va nous juger, il y a le dénouement. Mais celui qui est au courant de toutes les étapes, et quand je dis toutes les étapes, là on ne parle pas en gros, c'est « بِالتَّفْصِيلِ » Une connaissance niveau presque des ulama. Parce que de nos jours, il y a des livres qui ont été traduits. On a accès aux textes. Et les textes de là, là-dedans, il n'y a pas de divergence d'opinion. Il n'y a pas de risque non plus de détournement de personnes qui ne suivent pas comme nous. Il n'y a aucune divergence. Parce que c'est aqida, c'est croyance. Donc, ce qui existe comme livre sur le là, prenez-les. Et si un musulman, on le répète, si on arrive à développer notre connaissance, le akhira, ça change tout. Voilà, toutes les qualités intérieures qu'on a citées, on va les développer une par une. Parce qu'on a vu la réalité. Les savants disent, il y a des savants qui ont écrit des introductions sur l'important de l'iman, million, mille, un khir. On ne peut pas se permettre. Je n'ai pas le bon timing là. Je ne sais pas ce que ce dictaphone là il est correct. Si on est à 42 minutes, on a à peu près encore 45 minutes, Inch'Allah. Mais juste quelques points. Pour vous donner un aperçu, comment ça peut attarder sur les qualités intérieures, pour avoir une idée, comment est-ce que la solution, c'est d'en croire en l'au-delà. Celui qui a une connaissance optimale de l'iman, million, mille, un khir, il va intégrer à fond le verset wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Parce qu'il sait pertinemment, avec précision, quel est l'aboutissement de l'ibada. Une vie qui est vouée à Allah Azza wa Jal, quel est son dénouement là-haut? Quelqu'un qui approfondit son iman bil yawm al-akhir, ben, il a besoin, on parle souvent d'aimer Allah, mais je ne suis pas sûr qu'on aime vraiment Allah à fond. Le hubbullah, est-ce qu'il est vraiment entré dans notre cœur? Mais celui qui connaît, qui apprend à connaître notre Seigneur, notre Créateur, et comment est-ce qu'Allah va agir avec nous là-haut, il aura l'amour d'Allah dans son cœur. Pareil, la crainte d'Allah, si on connaît comment est-ce qu'Allah peut punir, peut sévir de l'au-delà, on va vivre avec l'angoisse, avec la crainte d'Allah dans notre cœur. La soumission, istislamu lillah, ça fait partie des qualités intérieures des amalul quloub. Celui qui a connu, qui a appris tout ce qui est en rapport avec l'au-delà, il sait que là-haut, tu te présentes devant Allah Azza wa Jal, la tête baissée. Et les Mufassirin disent, parole magnifique, n'attends pas d'être devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal pour être soumis à Allah pour la première fois de ta création. Ça c'est khasara uzma. Si tu attends d'être devant le tribunal d'Allah, quand Allah va te juger, pour que là tu baisses la tête et que tu te soumets à lui et tu t'en remets à lui entièrement et que c'est la première fois de ton existence que tu t'es soumis devant Allah, c'est que tu as raté ta vie. La soumission à Allah, si on savait comment est-ce que être devant le tribunal d'Allah, être devant la balance, ce sont des étapes insoutenables. Quand le prophète me dit que dans ces étapes-là, personne ne vient en aide à son prochain. Remise délivrée d'action, la balance, le sirat, et ainsi de suite, ces étapes-là, si on connaît avec bit tafsil comment vont se dérouler ces étapes et comment on aura besoin d'Allah, on ne vit plus dans l'insouciance. On ne vit plus dans la rafla. On garde cette soumission depuis ce dunya. Ça, c'est essentiel. Également, celui qui a appris les textes de l'au-delà, il arrive à faire ce lien entre ses actions et l'au-delà facilement parce qu'il sait quelles sont les récompenses pour les bonnes actions et quelles sont les conséquences pour les péchés. On parle de istiqama. Quelqu'un qui connaît l'importance de chaque atome de bonnes actions, est-ce qu'il va arrêter son namaz après Ramadan? Jamais. Quand quelqu'un il a réalisé, il a lu le tafsir de le tafsir d'autres versets, de versets qui ne me reviennent pas forcément. Le jour où chacun d'entre vous trouvera, en ce sens, traduction approximative, ce qu'il a accompli comme bonne action, mais également ce qu'il a amené comme mauvaise action. Quand tu lis les tafsirs, tu lis les hadiths qui commencent ce verset, tu réalises que la moindre parole déplacée, elle a son pesant dans le mizane. Et je ne peux pas me permettre de mourir et de retourner auprès d'Allah avec cette mauvaise parole, avec ce regard de perversité, ou avec telle gestuelle ou telle chose qui a été faite de façon haram. Ça te permet de te recadrer quand tu arrives à connaître l'au-delà et donc à faire le lien entre chaque décision et l'au-delà. Et également, ça te permet de relativiser l'importance de ce dunya. Très souvent, on est pris par ce monde. On aime le dunya. وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنَ Jamma, c'est dans la nature de l'être humain. Mais quand tu as connu, tu as appris les textes qui décrivent l'au-delà, et tu réalises que l'homme qui a été le plus comblé par Allah depuis l'histoire de la création, le plus riche, le plus heureux, Ramsa, on le met une seconde dans le paradis, on l'enlève. Et on lui demande, qu'est-ce que tu as eu de ce dunya? Rien. Il ne se souvient plus. Parce qu'une fraction de seconde de l'au-delà, ça te fait oublier ta vie de ce dunya. Et également notre conception de temps. Très souvent, on se dit que oui, mais il faut partager le temps, masjid, mais après, il faut miner mon loisir, il faut me faire telle chose. Je ne dis pas que c'est faux, mais quelles sont nos priorités, comme on l'a dit dans l'introduction? La conception du temps, on le règle quand on voit les versets « Aouka alladhi marra ala qariyatin » jusqu'à non. « Qala kam labithtum fil ardi adada sinin » Quand les gens se posent la question « Combien de temps on a vécu de ce dunya ?»« Qala kam labithtum fil ardi adada sinin » C'est quoi la suite ?« Qalu labithna yawman » Ils ne savent même pas. Quelqu'un qui a vécu 150 ans, il a l'impression qu'un jour, ou quelques jours, ou un instant, la notion de temps, elle n'est plus là. Parce qu'arriver dans l'au-delà, ce sont d'autres réalités. Mais précède cette prise de conscience, Akhifillah, Ukhtifillah. Essaie de passer le cap, regarde, vois les textes de l'au-delà, et tu réaliseras que ces ayam, ce sont vraiment des joies très limitées. Ça te permet également de faire la part des choses entre ton amour pour le dunya, ton attachement, quand tu te rends compte que ça ne représente rien, que personne ne meurt avec ses biens, et ainsi de suite, que la seule chose qui compte, quand le prophète dit que vous vous présenterez devant Allah uniquement avec vos actions, les biens, l'honneur, le nom de la famille, tout ça, ça reste derrière. Ça te permet de relativiser. Tu cherches quoi ici? Tu crois derrière quoi? Derrière un nom? Derrière un capital? Derrière telle chose? Et tu réalises que la seule chose qui te sera utile, ce sera les a'mal et le degré de foi que tu auras atteint. Même dans les difficultés, dans les maladies, dans les épreuves que nous vivons, celui qui a intégré les textes de l'au-delà, hein, prenez comme vous le voulez, mais il prend du plaisir à souffrir. Pas qu'il y a ça de Mazo, hein. Il prend du plaisir spirituel à souffrir. Ça, on ne peut pas tout développer. C'est le quatrième degré de sabr. Cité par les grands, les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils disent qu'il y a quatre degrés d'acceptation de l'épreuve. Le quatrième degré, c'était les sahaba. Quand on a demandé à Talha ibn Zubayr qui avait perdu un fils, son fils est mort. Il a dit, Alhamdulillah. Il a dit, Alhamdulillah. Oui, Allah m'a donné 7 enfants. Allah m'en a repris un. Il m'en a repris un, il m'en a laissé 6. Il m'a donné plus que ce qu'il m'a repris. C'est un état d'esprit qui nous dépasse là. C'est un autre niveau. C'est-à-dire que quand on a compris l'au-delà, que chaque difficulté qu'on a subie, même l'épine qui pique le pied, cette métaphore-là, c'est pas juste blabla ça, c'est réalité. Une moindre douleur que tu ressens, tu retrouves ça de l'au-delà. Allah te donne des récompenses, augmente ton degré, te donne des hasanats et t'enlève des péchés. Ben, tu te rends compte que quand on a mal à la tête, quand on a telle difficulté, tel problème dans la famille ou quels que soient les problèmes, ça c'est ni'ma ça, rahma de la part d'Allah. Allah veut pardonner tes péchés et élever ton grade. Ça change ta vision de la vie. Ça fait de toi un autre homme. Un homme qui a les pieds sur terre, mais le cœur déjà dans l'au-delà. Qu'Allah nous donne la possibilité de développer la croyance en l'au-delà. Alors, on va juste essayer de gérer notre temps entre quelques descriptions de l'au-delà et le fait, le thème même, le ihsan, faire preuve d'ihsan envers les gens. On peut se suffire de quelques mawaqif en 5 ou 10 minutes. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal décrit ce jour, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. De ce verset, il décrit que le jour où on soufflera dans la trompe, il y aura l'angoisse générale. Et cette angoisse générale, c'est parce que les gens sont ressuscités dans l'obscurité. Plus de soleil, plus de lune, aucune source de lumière. Et dans cette obscurité, Allah Rabbul Izzah révèle un autre verset, يَوْمَ إِذَنْ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَلَا, de le 19e Sipara, et que dans cette obscurité où tu es ressuscité, Les gens ne savent plus qu'est-ce qui se passe. Et il y a un i'lan, une voix qui nous appelle pour aller vers la terre de Mahshar. Et là, les gens, ils suivent cette voix parce qu'ils sont, ils ont atteint le summum de l'angoisse. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. L'intégralité de la race humaine est présente. Les milliards et milliards de créatures, ils se déplacent tous en même temps vers la terre où ils vont être jugés. Mais on n'entend pas un bruit illa hamsa. Ibn Kathir Mufassin dit que hams, c'est le bruit des pas quand les gens avancent. Parce que les gens sont scotchés, ils sont morts de peur, ils ne savent pas ce qui est en train de se préparer. Hada. Le prophète alayhi salat wa sallam nous a apporté également ce verset de la part d'Allah. Wa ya qawmi inni akhafu alaykum yawm at-tanad. Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel. Il dit que lorsque l'enfer sera présenté et que les gens vont s'enfuir, les anges vont les empêcher de s'enfuir, les anges vont les canaliser pour qu'ils restent dans la terre de Mahshar. Il y a d'autres descriptions quand on parle de yawm ayyin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? C'est plus le moment de penser j'aurais dû. Il aurait fallu. Mais si dans ce dunya, tu avais lu ce verset et tu avais appris ce tafsir, tu l'avais mis en application de ta vie, ben le jour de Qiyama, il n'y a pas de remords. Il n'y a pas ce moment où tu dis « Ya laytani qaddamtu li hayati ». Bien au contraire. Quand on reçoit les livrets d'action, tu dis « Montre fièrement « Ha umuqra'u kitabiya ». Mais pour arriver, pour vivre ces situations positives, il faut avoir les connaissances concernant le delà afin de s'y préparer. Hada. Également, quand il y a des personnes, si tu voyais alors les criminels comparaître tête basse devant leur Seigneur, et là ils demandent Rabbana absarna wa sami'na, oh Allah, on a vu, on a entendu, farji'na. Et là, il va le retourner dans ce monde pour maintenant faire les bonnes actions. C'est la première fois qu'ils vont se soumettre à Allah. Ne soyons pas ces personnes qui, le jour de Qiyama, prendront conscience des réalités quand ils ont vu. Parce que le mu'min n'attend pas de voir pour croire. Le mu'min, c'est alladhina yu'minuna bil ghaib, qui croit en l'invisible. On croit ce qu'on ne voit pas parce qu'Allah nous l'a révélé. Ça, c'est l'éveil du cœur et on n'arrivera jamais à cette conviction tant qu'on ne transite pas par les versets du Coran qui décrivent l'au-delà. Hada. Puis on va terminer pour ne pas trop empiéter sur l'autre partie. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam nous parle de, lorsque Allah azza wa jalla nous révèle le terme yawm at-talaq, c'est le jour de la rencontre. Yawmahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum shay', le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché d'Allah. Réalise que tout ce qu'il y avait de mauvais intérieurement sera dévoilé et présenté à Allah azza wa jalla. Et lorsqu'on est devant Allah pour le jugement, le prophète nous a dit un hadith qu'Allah nous a révélé, c'est un hadith qudsi. Ya ibadi, innama hiya a'malukum muhsiha lakum. Faman wajada khayran falyahmadillah, wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. En ce jour, c'est un bilan. Ô mes serviteurs, voilà vos actions, ce que vous avez amené. Celui qui dans son livret trouve des bonnes œuvres, qu'il remercie Allah. Celui qui trouve autre chose que ses bonnes actions, ben il n'a à faire de reproches qu'à lui-même. Ne soyons pas cette personne qui va trouver des péchés dans son livret d'action et qui aura des remords, mais soyons plutôt ce croyant qui va trouver quantité de hasanat, de récompenses. Hada. Et on va terminer avec des versets qui sont un peu plus crus. Maintenant, imaginez-vous, وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا, et ils seront présentés en rang devant son Seigneur. Quel moment insoutenable que d'être debout devant Allah Azza wa Jal et d'attendre quand est-ce qu'Allah nous appelle, quand est-ce que notre livret de compte nous est remis. Et il y a une étape qui fait vraiment réfléchir, c'est lorsque Allah Azza wa Jal dit « فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ». Puis, quand on soufflera de la trompe dans la corne le jour de Qiyama, il n'y aura plus de parents entre eux ce jour-là. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de lien de parenté. Et non seulement on ne voudra pas aider notre prochain, en général c'est ce qu'on retient de ça, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, c'est que non seulement tu ne veux pas l'aider, mais tu fuis, tu ne veux même pas qu'on te pose, qu'on te demande quoi que ce soit. Mais ça ne s'arrête pas là, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un verset qui a été lu hier, je ne sais pas si le verset me revient. Law yaftadi yawm idhim bi bani, quand ce jour on serait prêt à livrer notre frère, à livrer notre épouse, livrer nos parents, pour que eux ils soient punis, pour que nous on soit préservés. Dans le sens de Hadith, il dit que si même quelqu'un de notre famille, votre épouse, ou votre maman, vos parents, ou vos enfants, ils vous ont fait du tort de ce dunya, ben on va chercher le moindre raison possible pour obtenir réparation, et là il n'y aura aucun lien de sang, aucune reconnaissance. Ce sont là quelques versets et quelques réalités de l'au-delà, et on a vraiment besoin de les étudier pour comprendre où est-ce qu'on se dirige. C'est pas uniquement la mort, parce que tout le monde croit à la mort, mais nous on a besoin de réaliser qu'après la mort il y a cette étape de l'au-delà, et toutes ces étapes, certaines qu'on a citées et beaucoup d'autres avec beaucoup plus de détails, et on a besoin de se préparer pour ces étapes-là. D'où l'importance de paramétrer notre cœur pour qu'on développe les qualités intérieures et les qualités extérieures, pour qu'on arrive à vouer toute notre vie pour Allah Azza wa Jal. Et ainsi on peut atteindre l'ihsan, le summum de la foi. Maintenant, lorsque le summum de la foi est atteint, et que vraiment on a ce degré de taqwa, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On n'est pas encore à cette étape. Mais on va dire que si on est arrivé à cette étape, ou même si on est dans un cheminement vers cette étape, ce que notre dîn nous demande, et ça montre la pluralité de l'islam, l'étendue de ce dîn. Allah te demande d'investir ton cœur pour lui. Allah te demande d'investir tes jawarih, tes membres par l'ibada pour lui. Mais Allah Azza wa Jal te demande également d'avoir un regard clément et miséricordieux sur ton prochain. Fais preuve de ihsan envers les gens. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette grande introduction? Elle était très longue. Mais faut qu'on réalise que quand on parle de akhlaq, moi je suis très sceptique moi sur l'akhlaq, très sceptique. Et d'ailleurs, j'aime pas trop l'aborder directement, l'akhlaq, mais comme ça, le bon comportement. Parce que devant vous, je peux avoir un très bon comportement moi. Mais en dehors, avec ma propre famille, avec d'autres personnes, je peux avoir un mauvais comportement. Est-ce que donc je suis quelqu'un de bien? Aucunement. Je peux, le bon comportement, on peut le faire par ostentation aussi. Pour faire croire aux gens que ça c'est quelqu'un de nek, de pieux, de sérieux, ainsi de suite. Mais le khuluq al-hasan, le bon comportement ne prendra son sens qu'à partir du moment où il y aura le socle spirituel. Et c'est quoi le socle spirituel? C'est que ce akhlaq là, tu le fais pour Allah. Parce que si tu fais preuve d'ihsan envers les gens, pour les gens, parce que tu as de l'amour pour les hommes, oui, on te demande d'avoir de l'amour pour les hommes, mais de développer de l'amour pour la création d'Allah, il faut qu'à la base, cet amour est basé sur l'amour d'Allah. Et d'ailleurs, les qualités qu'on doit développer dans nos relations avec les hommes sont souvent citées avec le nom d'Allah. Al-hubbu fillah. Tout à l'heure, on avait parlé de hubbullah, aimer Allah. Ça fait partie des conditions de la foi. Là, on parle de choses, al-hubbu fillah, aimer son prochain pour Allah. At-tawadhu lillah, faire preuve d'humilité pour Allah. C'est-à-dire que ces qualités-là, tout ce qu'on parle, tout ce qui est en rapport avec l'ihsan, le fait de bien agir avec les autres, il ne suffit pas juste de dire, voilà, le prophète a dit, il faut faire telle chose, faire telle chose, ça ce sont des traits de caractère du musulman, je suis d'accord. Mais si à la base, on n'a pas intégré qu'on doit avoir une relation avec Allah à travers la relation avec ces gens, ben on n'aura pas istiqama et sincérité dans ces bonnes actions. Je prends un seul exemple, quelqu'un de votre famille, il vous a fait du mal, ou il a rompu les relations avec vous. Si ce n'est pas pour Allah, personne ne retourne vers son frère, ou sa soeur, ou son tonton, ou son beau-frère. Parce qu'il t'a fait du mal, et il continue, et il ne demande pas d'excuses, et il persiste. C'est-à-dire qu'il est nuisible pour toi. Ça, c'est peut-être des situations qu'on a tous vécues. Quelqu'un de la famille, ou la belle-famille, ou peu importe, proche ou éloigné, ben, il nous pose des problèmes. Et nous, on a une certaine fierté, parce que nous restons des êtres humains. On a un certain izzat. On se dit que bon, de cette histoire, je n'ai pas tort, c'est lui. Et tant qu'il ne vient pas demander pardon, moi je suis prêt à le pardonner, il n'y a aucun problème. Mais il faut qu'il fasse le premier pas. Mais non, si tu attends qu'il fasse le premier pas, c'est que walamma yadkhulul iman fi qulubikum, que la foi n'est pas entrée dans le cœur. Parce que quand le prophète explique que man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah, fais preuve d'humilité pour Allah, rabaisse-toi. Oui, c'est pas toi qui as tort, c'est lui. Mais fais ça pour Allah. Fais pas parce que c'est telle personne. Fais-le pour Allah. Allah va t'élever. Ça, c'est qualité de foi. Vous voyez, ça, c'est juste un exemple de akhlaq. Il y a le monde, la personne qui dit, moi, il a bon akhlaq avec tout le monde, tant que banal est bien avec moi, il est bien avec eux. Mais le prophète dit que salatul rahim, là, c'est pas celui qui entretient de bonnes relations avec les gens qui ont de bonnes relations avec toi, c'est celui qui crée de bonnes relations avec celui qui lui tourne le dos. Ça, c'est salatul rahim. On a un décalage dans la compréhension du akhlaq. Parce qu'à la base, on n'a pas compris que tout ça, c'est pour Allah. Donc, si on n'a pas les premières étapes de qualité intérieure, ce beau comportement n'arrivera, ne débouchera pas sur beaucoup de choses. D'ailleurs, dans des versets où on parle du Wal-Kalimut, la bonne parole, le verset ne me revient pas, Wal-Amalu Salihu Yarfa'u. C'est-à-dire, en commentaire, ils disent que autant de beaux comportements, de bonnes paroles, mais si à la base, tu n'as pas les bonnes œuvres, ça n'avance pas. Parce que Wal-Amalu Salihu Yarfa'u, en ce sens, que les bonnes actions vont élever ces traits de caractère ou ces bonnes paroles. À la base, Iman, Amal Saliha, et avec ça, le bon comportement. Tout ça, ça doit marcher ensemble. Tout comme on a réalisé que quelqu'un qui a un excellent comportement, qui aide son prochain, mais qui ne fait pas aucun namaz, ça ne va pas aller. Ben de même, on doit comprendre que ce bon comportement, s'il n'a pas comme base l'amour pour Allah Azza wa Jal, ben ce bon comportement, il reste très fragile et il risque de s'arrêter quand il n'y a pas un retour de l'autre personne. Maintenant, d'une manière générale, on doit réaliser que faire preuve de ihsan, être une personne qui est bénéfique pour la société, pour la communauté, être un rayon de soleil à travers notre sourire, à travers notre façon de parler, d'agir, être une personne positive, ça, c'est pas quelque chose qui complète ta foi, ça. C'est pas un petit ziyada, un petit surplus, c'est pas la cerise sur le gâteau. Ça fait partie du gâteau. Ça fait partie de la foi du croyant. Et ça te garantit l'acceptation de la part d'Allah Azza wa Jal. On ne parle plus. C'est pour ça que je prends avec beaucoup de pincettes tout ce qui a rapport avec l'akhlaq. Soit on le voit d'une façon biaisée, comme on l'a dit tout à l'heure, soit on considère que c'est un surplus, en option. Si tu l'as, c'est bon. Si tu ne l'as pas, le plus important, c'est d'avoir des actions. Aucunement. C'est une condition indispensable pour être accepté par Allah Azza wa Jal. Notre prophète, alayhi salat wa salam, dit dans un hadith, il y en a beaucoup, on va en citer qu'un ou deux. Ar-Rahimuna يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. Les personnes qui font preuve de pitié, qui ont de la compassion, qui ont de l'amour pour le prochain, ben ces gens-là, يرحمهم الرحمن, ces gens-là bénéficieront de la clémence, de la miséricorde, de la pitié d'Allah Azza wa Jal. Et il précise, irhamu man fil ard, ayez de la compassion, agissez correctement avec la création d'Allah, avec toute créature d'Allah, yarhamukum man fis sama, Allah Azza wa Jal aura de la pitié, aura de l'amour, de la compassion pour vous. Le sahaba avait demandé, ya Rasulallah, kulluna yarhamu. Nous avons tous de la compassion pour notre prochain. Et ça, on peut se dire la même chose aussi. C'est une réaction d'être humain. Les sahaba étaient avant tout des êtres humains. Ben moi aussi, je peux dire que ben, j'aime mes enfants. J'aime mes petits-enfants. J'en ai pas encore. Hein. J'aime ma famille. J'aime mes voisins. J'aime mes frères en islam. Ben, il y a de ça. Ça y est. Le prophète dit que c'est pas ça. Le prophète dit, et ça c'est une parole magnifique qui montre le principe de l'humanisme avec un grand H, le vrai grand H. L'humanisme en islam, laysa bi rahmati ahadikum sahiba yarhamu an-nasa kaffatan. Il dit, il ne s'agit pas d'avoir de la compassion pour celui que tu aimes, celui qui t'est proche, mais c'est d'avoir de la rahma de ton cœur pour l'ensemble des gens. Ça c'est l'homme qui a de la compassion et c'est cette qualité-là qu'on a besoin de développer. Être une source de lumière, de rayonnement spirituel, et c'est là que ta spiritualité, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va rejaillir dans ton akhlaq, ça rejaillit dans tes a'mal saliha, comme on a longuement expliqué, ça rejaillit dans ton comportement avec les gens, parce qu'à la base, il y a l'amour d'Allah Azza wa Jalla, la crainte d'Allah, donc dans tes relations avec les gens, il y aura la taqwa. Est-ce qu'on aurait pensé que dans nos relations avec notre voisin qui n'est pas musulman, on peut manifester de la taqwa? Bien sûr qu'on le peut. Bien sûr qu'on doit le faire. Parce qu'à la base, il y a la crainte d'Allah qui fait que tu agis de la meilleure des façons avec lui. Hier, on avait une petite assemblée de jeunes à Saint-Denis. C'est vraiment je dis pas ça comme ça, la crème, c'est le carré piéton. C'est toutes des grandes familles. Donc, des jeunes, ils viennent. Et ils ont posé une question très intéressante. Ils ont dit, Moïssa, est-ce qu'on a le droit de faire ribat sur un non-musulman? Il m'a dit, mais le non-musulman là, c'est pas création d'Allah Azza wa Jal, c'est pas makhlouq d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que tu as le droit de le frapper, de voler ses biens? Il dit, non, haram. Pareil, tu parles pas sur la personne. Ça, c'est une créature d'Allah. Le respect de walaqad karramna bani Adam. Allah a honoré la race humaine. Et cette race humaine, elle a une intégrité que tu dois respecter. D'ailleurs, et c'est pas parce qu'il y a le kufr, le shirk dans son cœur qui ne mérite pas de respect. Ben, si on devait porter, si on devait orienter notre manière d'agir avec eux en fonction de ce qu'il y a de leur cœur, Allah aurait dû faire avant nous, oui ou non? Pourtant, ils se prosternent devant d'autres qu'Allah ou ne croient pas en Dieu, mais Allah leur accorde la subsistance, Allah a pitié d'eux, et c'est une des manifestations de la rahma d'Allah pour la création. Oui ou non? Si Allah agit avec ses créatures qui le désobéissent ou qui ne croient pas en lui avec pitié et clémence, qui sommes-nous pour défier la création d'Allah Azza wa Jal? Le mu'min qui connaît sa religion, qui connaît les textes, c'est pas où agis comme voilà comme ça, comme l'arrivée. Non, c'est tu agis avec intelligence, ilmi, connaissance religieuse, même pas héritage culturel. Parce qu'il suffit une époque même, je ne vais pas réveiller les morts, il suffit même une époque où entre nous on se déchirait, entre Soultité, Al-Abaïssa, entre Gamalia, entre ainsi de suite. Il y a encore parfois des brides de paroles dans la bouche de nos grands-parents. Hein, moi j'en connais encore parmi les gens de ma famille qui a dit un tel, Samaïka, un tel, dit aïe, 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 Samaïka, Abaïssa. Je dis, ben, arrête avec ça, l'enterrer, ça. Il y a encore parfois, ça reste. C'est-à-dire que tout ça, ça prouve que la réalité de Iman n'était pas vraiment entrée dans le cœur. Parce que quand réalité haqiqa de Iman rentre dans le cœur, il n'y a plus de différence entre les gens. Il y a la création d'Allah. Après, il y a les droits de ceux qui ont la ilaha illallah de leur cœur. Ça, c'est un autre niveau de droit. Mais l'homme, l'être humain, le précurseur dans l'humanisme, dans l'histoire des civilisations, c'est Muhammad Mustafa, alayhi afdalu salat wa atamu taslim. Hada. Également, oh là, il y a tellement de hadiths, mais on peut pas se permettre de dépasser le ce qui est prévu. Il reste à peu près une vingtaine de minutes, inshallah. Je sais pas comment est-ce qu'on peut, on peut faire un choix encore sur les hadiths. Vous voyez, si on va même au-delà de la race humaine, une fois, là, on passe à autre chose, hein. Le prince Amé avec ses sahaba. Et il voit un sahaba qui revient avec des œufs. Des œufs. Et un oiseau qui tourne autour. Hadith est rapporté par Bukhari. C'est pas des histoires qu'on raconte aux enfants avant de dormir. C'est hadith de Imam Bukhari al-Adab al-Mufrad. Le prophète a vu cet oiseau qui était en difficulté, qui était affolé. Il dit, qui c'est qui a pris les œufs de cet oiseau? Ça va dire moi, prophète d'Allah. Est-ce que c'est haram, ça? Haram, si c'est pour manger ou autre chose et tout. Le prophète a dit, retourne. Ramène-la, parce que tu as mis en difficulté une créature d'Allah. Le sahaba l'a fait tout de suite. On connaît l'histoire de cette personne qui est descendue dans un puits, qui a amené de l'eau pour un chien, qui allait mourir de soif. Pourtant, le chien, la bave du chien touche tes vêtements, tu peux pas prier, c'est un problème. Il faut laver, la bave du chien touche un ustensile, il faut laver 7 fois et une fois avec la tête. Donc, c'est un animal qui est najis. Mais, sa bave est peut-être naapak. Mais c'est khalq min khalqillah. Et Allah nous a éduqués. Allah nous a donné les bases pour comprendre comment agir avec la création d'Allah. Cet homme a vu ce chien mourir de soif, descendu de le puits. Il a pris de l'eau, il a donné à ce chien. Allah Rabbul Izza lui a accordé le paradis parce qu'il a eu de la pitié pour une créature d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est le rayonnement spirituel du croyant. Et ça, c'est la beauté, le nour de Iman. Quand Iman pénètre dans le cœur et qu'il rejaillit de notre relation avec les gens, ça donne ce genre de comportement qui devient, sans le moindre doute, un motif de guider, de hidayah pour l'ensemble de l'humanité. Maintenant, si on va en détail, si on continue dans le fait d'agir correctement, le ihsan envers les gens, si on analyse d'autres catégories de relations qu'on a avec les gens, on citera un hadith par exemple, dans le respect envers les parents. Quand dans le Coran, Allah Rabbul Izzah nous dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ce hadith, ce verset là, il est oula, c'est du très lourd, tous les versets sont lourds, mais c'est magnifique parce que Allah Rabbul Izzah de ce verset, il met en avant l'unicité d'Allah, l'adoration d'Allah l'unique. Ça c'est la foi, ça c'est Iman. Et juste après, Al-Ihsan et la bonté envers les pères et mères. C'est cité juste après le droit d'Allah. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le verbe qui ouvre le verset. Wa qada rabbuka. Et ton Seigneur a décrété. Ça c'est Amrum min Allah. Ça c'est le Hakim. C'est celui qui décide. C'est celui qui légifère. Qui a décidé que toi, créature d'Allah, tu as de la reconnaissance envers ton Seigneur, ton Créateur, ensuite de la reconnaissance envers tes parents. Et dans d'autres versets, il est même stipulé que même s'ils n'ont pas la foi, tu dois du respect pour tes parents. Ben, comment est-ce que je peux mettre ce verset en application si le terme « wa qada rabbuka » ne percute pas mon cœur? Si le terme wa qada rabbuka, en général on se focalise sur wala taqullahuma uffi wala tanharuma wala tanharuma, ce sont ça les versets qui nous touchent beaucoup. Mais moi ce qui m'intéresse c'est wa qada. Parce que si tu n'as pas compris que c'est la décision d'Allah et que tu agis bien avec tes parents parce que c'est tes parents, l'objectif n'est pas atteint. Parce qu'il est possible qu'un jour tes parents te déçoivent, mais grave. Toute ta vie tu t'es occupé d'eux. Il y a déjà des cas comme ça. Hein. Et au moment de faire pardon, le partage. Le partage des biens, la répartition, on ne parle pas de l'héritage, mais les donations, cherchez le terme. Il y a des fois, on a donné presque toute sa vie pour les parents, et on voit que les parents, ils font une donation, ils donnent à un autre qui lui n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on ressent dans le cœur? Nous sommes des êtres humains. Il y a quelque chose, il y a une frustration, même si on ne va pas mal agir, mais il y a quelque chose qui est cassé. Mais cette chose-là n'arriverait jamais si tes relations avec tes parents étaient construites sur l'ordre d'Allah. Je le fais parce que c'est mon papa et ma maman. Je les aime. Ma maman a mis au monde ainsi toutes les relations d'amour humain, naturel. Mais avant tout, c'est Allah qui a décrété. Vous voyez comment, c'est quoi le cheminement? Le cheminement vers le bon akhlaq, ça démarre les qualités intérieures. Ça passe ensuite au a'mal, aux convictions, istislam, la soumission à Allah Azza wa Jal. Et ensuite, tu peux développer ces qualités des croyants, ce genre de akhlaq, parce qu'à la base, tu sais que tu le fais pour Allah. C'est Allah qui a décrété, donc je le fais. Même si mon père, il devient âgé et il m'insulte du matin au soir. Ou que ma maman me maudit du matin au soir, il me dit sors là, je ne vais plus te voir, ainsi de suite. On reste correct avec eux, on fait tout ce qu'on peut, parce que même s'ils ont tort à 100%, et des fois les parents ont tort aussi, hein. Même s'ils ont tort, mais ce n'est pas pour eux que je fais pour Allah. Et en aucun cas je ne tourne le dos parce que je suis en train d'obéir à mon Seigneur avant d'obéir à mes parents. Ça, on a besoin d'intégrer. Si tu as intégré la foi, tu vas avoir ce rayonnement et tu as fait ihsan envers les gens. Ça, c'est concernant les parents. Concernant l'épouse, quand notre Seigneur nous demande « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » et « Comportez-vous correctement, convenablement envers elle. » C'est l'ordre d'Allah. « Ashiruhunna » comment on appelle ce temps-là ?« Amr » l'impératif. C'est pas « mustahab », c'est pas « il serait mieux de », c'est pas « min kamal al-iman min husn al-islam al-mar'i » du tout, c'est wa'ashiruhunna bil ma'ruf, comportez-vous correctement avec votre épouse. Et le prophète là a insisté encore sur ce point lors du pèlerinage, lors du hajjat al-wada', lors du pèlerinage d'adieu. Maintenant, s'il y a un mauvais retour de comportement de la part de mon épouse, qu'Allah nous donne la guider en premier, moi en premier, parce qu'on n'a pas toujours ces qualités quand ça concerne les relations humaines, c'est parfois beaucoup plus délicat. Quand il y a un retour négatif, quand ton épouse t'a déçu, ne change pas de comportement envers elle. Parce que tu n'agis pas avec... Si tu agis avec elle de cette façon parce que tu es amoureux d'elle, ce qui est une bonne chose, parce que tu l'aimes, ce qui est une bonne chose, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. À la base, il doit y avoir iman. Tu es en train d'obéir aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Quand le prophète reçoit ce plat de nourriture et que Aïcha radhiallahu anha, elle est très jalouse, elle l'a jeté parce qu'elle n'a pas pu préparer pour le prophète et une autre épouse avait envoyé, le prophète, il n'a rien dit. Il s'est baissé, il a ramassé les débris et il n'a pas dit une parole à Aïcha radhiallahu anha. Et là, le prophète dit que les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui ont les meilleurs des comportements avec leur épouse, avec les membres de la famille. Mais quand est-ce que tu vas intégrer ça? Si ton mizan, si ta valeur, ta façon d'analyser le comportement, c'est une question de donner et de retour, ça ne marche pas. Si elle agit correctement avec moi, je serai un bon mari. Si quand j'arrive à la maison, le repas est prêt et que la maison est bien nettoyée, bien rangée, ainsi de suite, là, j'aurai le meilleur des comportements. Mais si j'arrive, il n'y a rien qui a été fait et tout, là, il va trouver à moi aussi, mais pas de la même façon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas fait pour Allah. Fais tout pour Allah. Comme on l'a dit depuis l'introduction, c'est ta vie, tu t'engages dans chaque moment, mais également chaque type de relation, c'est pour Allah. Et s'il y a ce ikhlas qui est rentré, assurément, le couple tient. Le couple tient. Il n'y a plus de problème parce qu'on fait preuve de concession et on recherche le contentement d'Allah Azza wa Jalla. Pareil, quand le prophète parle du voisin, il dit que le Jibril m'a donné tellement de conseils sur le voisin qu'à un moment donné, j'avais peur qu'il lui donne une part de l'héritage. Tu as un voisin qui agit mal avec toi. Si ton mi'yar, tu analyses ton comportement avec lui en fonction de ce qu'il fait, c'est sûr que tu clashes. Tu vas appeler la police, tu portes plainte, ainsi de suite, tu vas faire des problèmes. Mais si tu respectes, tu as de bonnes relations avec lui, par amour pour Allah Azza wa Jalla, parce que Allah te l'a ordonné, là dans ce cas, il y aura un retour correct. Tout est basé sur le iman. Quand le iman entre dans le cœur, ben tu deviens un muhsin. Tu fais preuve de ihsan dans ta façon de parler, dans le sourire, dans ton comportement avec ton épouse, avec tes voisins, avec les croyants, mais également avec ceux qui n'ont pas de iman. Et là, permettez-moi pour conclure ce point, et bientôt presque de tout conclure, de citer un verset. Et ce verset-là, subhanallah, il est dans la sourate. Je ne sais pas quelle sourate. On avait lu dans la sourate al-Tarawih, c'était au début de la première décade. Et en analysant, en creusant le tafsir de Mekathir, on s'est dit que, Allahu Akbar, si seulement les musulmans, c'est chaque musulman, Il connaissait ce verset. Tout le monde le connaît. Et combien le mémorise dans cette assemblée? Mais si on connaissait le tafsir, ben on aurait été capable de répondre clairement, sans ambiguïté, face à ces problématiques qu'il y a dans ces quelques années, concernant le terrorisme, l'islamisme, la radicalisation, et ainsi de suite. On aurait la réponse directe face à ces attentats, et ainsi de suite. Et à travers un verset, on a une réponse pour des problèmes qui se sont déroulés à différentes époques de l'histoire et qui continueront à se développer, à se dérouler jusqu'à la fin des temps. Le Coran, c'est la source. Quand on dit, on se connecte à la source, ça donne les éléments de réponse. Quel est ce verset? Wala yajrimannakum shana'an qawmin an saddukum 'anil masjid al-harami an ta'tadu. Quand je lis la traduction, je ne saisis pas vraiment le sens. Traduction, et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée, vous inciter à transgresser. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Ben, j'ai l'impression qu'il faut faire de bonnes actions, il ne faut pas s'entraider pour faire des péchés. Mais non, comprendre le Coran, ce n'est pas juste lié à la traduction. Encore une fois, on le dit dans beaucoup de programmes, ne soyons pas des autodidactes. On n'apprend pas le Coran juste avec la traduction. On n'apprend pas la religion juste sur Internet, juste avec Google, avec Skype, avec quelques personnes qui parlent à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, on entend une voix, on ne sait pas c'est qui. C'est quoi son parcours spirituel et religieux, ainsi de suite. On a besoin de nos ulama, de nos savants, et on a besoin des kutub également qui ont été traduits. Ibn Kathir est traduit. As-Sa'idi, magnifique tafsir, qui a récemment été traduit. J'en ai acheté un, alhamdoulilah. Pas pourquoi payer le marmaï, mais il est à la maison. Il est cher seulement. Mais ça, c'est des mines d'or. C'est des mines d'or. C'est un marmaï, c'est un niabit, c'est un lui, donc ça va. C'est des mines d'or. Lis chaque verset, lis le tafsir. Subhanallah. Si tu vis, c'est comme si tes pieds ne touchent plus le sol. Tu comprends le message qu'Allah adresse à Ya Yuhalladina Amanu, à toi. Et tu vois la vie d'une autre façon. Dans ce verset, il est question du sulh de Hudaybiyah. Le pacte de Hudaybiyah en l'an combien? 6, je crois, non? 6 de l'Hégire. En l'an 6 de l'Hégire, le prophète Aïssat wa salam voit en rêve qu'il va à Makkah al-Mukarrama accomplir l'Umrah. Il va avec une quantité de sahaba arriver devant Makkah dans un endroit qui s'appelle Hudaybiyah. Uthman va demander l'autorisation pour entrer. L'autorisation leur est refusée. On dit, vous voulez avancer, signez ça, ce pacte. Et il y avait des conditions qui étaient défavorables. Le prophète salam l'accepte. Et les sahaba contre cœur, mais le prophète Sam l'a fait, donc on accepte. Le prophète Sam dit maintenant, on doit retourner à Makkah. Il n'accepte pas qu'on rentre à Makkah. Là, les sahaba, ils sont plus bons. On a dit, ah non, depuis combien d'années, depuis 6 ans, on n'a pas vu Kaaba. Nous sommes à Makkah, parmi les muhajirines. Et ils ont mis le ihram. Vous vous imaginez, vous allez au Hajj, vous arrivez au terminal Hajj, Monifiroz est déjà là, il voit. Hein. Après, il dit, le visa n'est pas bon, il faut retourner. Mais ça tape bouga, moi. Et ça tape tout le peu que l'a fait le visa et il me casse l'avion, il me fait tout ce qu'il est pire. Tu as ton ihram, tu arrives, terminal Hajj, tu vois les gens qui sont en train d'entrer. Et toi, il y a un problème administratif, le numéro ne correspond pas au fichier sur visa tout le Hajj, retourne là-bas, travail était mal fait en amont. C'est la catastrophe. Qui pète pas un câble ici? Et en plus, l'argent n'est pas remboursé. Vous connaissez, ben le groupe là, il rentre pour l'argent, ça. Donc, karitha, c'est une catastrophe. Les sahaba, ils sont. Ils voient, t'es, vous en compte, ils voient Makkah de loin. Ils sont en ihram. Ils sont avec un Nabi sans ça. Ils n'ont jamais fait Umrah avec le Prophète sallam. Et leur cœur est attaché à Makkah. Ils viennent de recevoir ce refus injuste. Ça les coûte quoi de nous laisser faire Umrah? Un instant, puis on repart. On a fait ce voyage à dos de chameau jusque-là. Ça coûte quoi? La seule chose, c'est de la méchanceté. C'était de la méchanceté de la part des Quraysh. Ils voulaient leur donner une leçon, leur faire mal. Et là où ça fait mal. Et ils ont réussi. Ils ont la rage. Ils ne voulaient même plus obéir au prophète. Vous vous rendez compte? Quand le prophète dit qu'on retourne à Madina, il a dit non, on ne retourne pas à Madina. Il ne guérit plus. Et là, le prophète va voir son épouse, Mashfira avec madame. Il dit, au prophète d'Allah, montre-leur que tu rases ta tête, tu immoles l'animal et que tu retournes. Ils vont te suivre. Tes sahaba t'aiment. Mais il y a une grosse frustration. Le prophète l'a fait, les sahaba, sami'na wa ta'ala. Tout de suite, ils l'ont fait. Ils sont retournés à Madina. Au moment où ils vont partir, qu'est-ce qu'ils voient? Wafd. Un groupe de hadji qui arrive, de polythéistes. Ce n'est pas des musulmans, ce n'est pas de chez eux. Des bédouins, des personnes de différents endroits. On a plus le nom de ces gens-là. Ils arrivent en ihram, ils vont faire l'umrah. Et eux, ils rentrent. Qu'est-ce qui passe par leur tête tout de suite? Hein? Ils ne passent pas comme ça, quelqu'un s'accasse, papa? Non, ils n'ont pas dit ça. Non, 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 non. On n'est pas entré, personne n'y rentre pas. Soit tout y rentre, soit personne n'y rentre. C'est comme si là, on te bloque, on ne te laisse pas rentrer, t'aimes le Hajj. On a un groupe de tueurs qui arrive. Et quand on a un tueur qui arrive, en général, il ne faut pas se mettre devant. Le groupe de tueurs qui arrive, et eux, ils rentrent tranquillement. Ils disent, non, attends, il faut être juste. Nous, on n'a pas pu entrer, eux, ils rentrent. Pour... Toute, c'est la réaction humaine, ça. L'injustice, l'homme n'aime pas. Les Sahaba, ils voient, oh, en plus, c'est des mouchriquines. Ils entrent parce qu'ils ont des accords avec les Quraysh de Makkah. Ils vont vers les idoles, ils vont faire le tawaf et se procéder devant les asnam. Immédiatement, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu les empêcher d'entrer à Makkah. Ils disent que non, on n'est pas entré. Il n'y a aucune raison que ces kuffars entrent à Makkah. Pas question. Le prophète dit, hey, ceux-là, ils ne vous ont rien fait, eux. Les méchants, ceux qui vous ont fait du tort, c'est eux là-bas. Mais on vient de signer un engagement qu'on n'aura aucune guerre pendant 10 ans. Donc, ce ne sont plus nos ennemis pour l'instant. Mais le bougla, ces gens, ces personnes-là, certes, ce sont des mouchriquines comme eux. Ils ne croient pas en Allah comme eux. Il y a la même croyance, le même shirk, même origine peut-être. Mais ils ne nous ont rien fait, eux. Donc, on les laisse tranquilles. Parce que si vous faites du tort à des gens qui ne vous ont rien fait parce que d'autres personnes vous ont fait du tort, vous êtes des transgresseurs et Allah n'aime pas les transgresseurs. Vous avez compris l'analogie? Vous avez compris? Ceux qui mettent des bombes à droite et à gauche disent parce qu'en Irak, parce qu'en Syrie on bombarde des populations musulmanes. Oui, il y a des populations musulmanes qui sont bombardées. Oui, c'est injuste. Oui, notre cœur saigne. Mais tu ne règles pas ce compte à Bruxelles, à Paris, à Madrid ou au Québec ou je ne sais pas quel endroit encore où il y a eu récemment au Bangladesh. Non! Ça, c'est transgression. Ça, ça s'appelle, je cherche le verset du Coran, ça, c'est la transgression. Et Allah n'aime pas les transgressions. Ça, c'est zulm. C'est-à-dire, ce VNC nous donne une ouverture, nous permet de décrypter ce que ces gens font et d'avoir la réponse et de pouvoir condamner fermement d'une voix, avec conviction, à la lumière du Coran, que ça, c'est de la transgression. Et ça, Allah l'a empêché. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, l'a empêché. Et d'autres personnes le font de manière plus grave encore. Donc, ikhwan ya khawati fillah, à travers le Coran, à travers cette implication de la connaissance religieuse et ses qualités intérieures, ben on arrive à devenir, à atteindre le degré de ihsan, ihsan envers Allah, le degré de foi par rapport à Allah, c'est le ihsan, et on arrive à faire preuve d'ihsan, de bonté et de muhabba, d'agir de la meilleure façon avec les gens, mais avec à la base l'amour d'Allah et la crainte d'Allah qui va régler ce comportement. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce qu'Allah nous accorde? 1h22, 8 minutes, Amir Sam. 5 minutes, Inch'Allah. 5 minutes pour un des plus beaux textes que j'ai lu de toute ma vie. Quand dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit « Hal jaza'ul ihsan illa l'ihsan » Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Et dans notre verset, « Lilladhina ahsanul husna wa ziyada » À ceux qui agissent en bien et réservé la meilleure récompense et même « wa ziyada » et même davantage. C'est quoi davantage? Là, on va voir Ibn Kathir, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il explique que celui qui a bien agi, tout ce qu'on a compris, Allah lui accorde le paradis, mais en plus, ceux qui ont atteint ces summums de la foi, ces personnes, ces croyants qui ont été choisis et élus par Allah Azza wa Jal, ce qu'Allah Rabbul Izzah leur accorde, c'est quelque chose qui est magnifique, c'est ce qu'on appelle Yawmul Mazid. C'est le summum en termes de récompense. Là, on ne parle même plus de Jannah. On ne parle même plus de paradis. On parle de ce qu'Allah Azza wa Jal accorde aux gens du paradis. On retrouve notre note, Inch'Allah. Dans des hadiths, il est décrit que quand les gens du Jannah, du paradis, seront déjà dans le paradis, à un moment donné, ils vont entendre un i'lan, une voix qui vient du ciel. Le hadith dit « Idha dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlul nar al-nar » Lorsque les gens du Jannah seront dans le Jannah, et les gens de l'enfer seront dans l'enfer. C'est-à-dire quand tout sera terminé, c'est fini. Terminé. Il n'y a plus rien qui bouge maintenant. Nada munadin, une voix va appeler. Ya ahl al jannah, inna lakum indallahi maw'idan, yuridu an yunjizakumu. Oh les gens du paradis, vous avez une rencontre, une promesse, un rendez-vous avec Allah et Allah veut que cela se passe maintenant. Fayaqulun wa ma huwa? Il dit qu'est-ce qu'Allah va nous accorder en plus? Pourquoi en plus? Parce qu'ils sont déjà dans le jannah depuis un bout de temps. Ils sont déjà dans tous les bienfaits du paradis. Ils vont dire, Alam, est-ce qu'Allah ne nous a pas donné plus de récompenses qu'on le méritait dans nos balances? Est-ce qu'Allah n'a pas illuminé nos visages? Est-ce qu'Allah ne nous a pas accordé son Jannah? Est-ce qu'Allah ne nous a pas éloigné de l'enfer? Et là, l'annonce sera que Allah, Rabbul Izzah, vous appelle pour qu'il se présente à vous pour que vous puissiez contempler la beauté de votre Seigneur. Dans certains textes, on parle de Yom al-Jumma. Dans d'autres textes, d'autres commentaires, dit que ce moment-là durera l'équivalent d'un jour de vendredi dans ce dunya. Il dit que chaque personne sera invitée et il y aura des montures du Jannah qui vont venir. Et comment ils sont? Allah seul le sait. Et ils vont se rendre dans cet endroit. Dans certains textes, on parle de Wadi Afiyah, de la vallée de Al-Afiyah qui est dans le Jannah. Et là, ils vont dire « Sam'an wa fa'an » à vos ordres, on obéit à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et là, les gens du paradis vont s'installer. Certains seront sur des mimbars, des chairs de nour, d'autres sur des mimbars, pardon, d'or, de zahab, d'autres des chairs, des mimbars d'argent, et d'autres seront sur des dunes, assis sur des dunes de musc. Ils n'auront pas des mimbars, parce qu'ils ne font pas partie des Ahlul Firdaus. Ils ont des degrés moins hauts, moins importants de le Jannah, mais ce sont des Jannatis. Ils sont tous heureux d'être dans le Jannah. Ils seront assis sur des dunes de musc. Vous imaginez toutes les personnes qui ont cru en Allah dans l'histoire de l'humanité, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des hommes. Tout le monde sera réuni là pour que Allah Rabbul Izza se présente à eux. Ils seront installés et les cœurs remplis de joie. Quand on cite, on explique ça, on doit avoir cette motivation. On devrait dire, ya Allah, qu'un jour, moi aussi, je vois cette scène, que je fais partie de ces gens. Et là, ya Ahl al-Jannah, inna lakum indallahi maw'ida. Allah veut réaliser une promesse. Et là, il y a une lumière qui va surgir du sommet du paradis et qui va illuminer tout le Jannah, tout le paradis. Et lorsque cette lumière va jaillir, ils vont lever leur tête et ce sera Allah Azza wa Jal qui va se présenter à eux. Et Allah Rabbul Izzah, la première chose qu'il va dire aux gens, c'est Ya Ahl al-Jannah, salamun alaykum. Oh les gens du paradis, que la paix soit sur vous. Et la réponse qu'ils vont dire d'une seule voix, imaginez, tous les jannati, Allahumma ja'alna minhum, qui répondent d'une voix, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ya Allah, tu es la paix, et de toi vient la paix, et à toi la bénédiction. Et Allah Azza wa Jalla, à ce moment, il ne voit pas encore Allah Rabbul Izzah. Et Allah va demander, Aina ibadi, alladhina ata'uni bil ghaybi wa lam yarawni. Où sont mes serviteurs qui m'ont obéi sans me voir, en croyant en l'invisible, les qualités intérieures qu'on a citées, Iman bil Ghaib, et qui ne m'ont pas vu? Ce sera là le Yawmul Mazid. C'est ce qu'on appelle le Yawmul Mazid. Et là, ils vont dire tous ensemble, et ce qui est magnifique, imaginez, excusez-moi, dans une assemblée où il y a 10 000 personnes, tout le monde parle et dit une même chose, on entend. Mais là, c'est tout le Jannah, les gens, parce que toutes ces personnes sont des élus d'Allah. Ils vont tous dire, Qad radina, oh Allah, nous sommes satisfaits. Farda anna, oh Allah, sois content de nous, sois satisfait de nous. Et Allah Rabbul Izzah va répondre, Ahl al-Jannah, oh les gens du paradis, si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas fait habiter dans mon Jannah. Et ça, c'est le jour Yomul Mazid, et alors demandez-moi ce que vous voulez. Et là, d'une seule voix, ils vont demander, Ya Allah, nous voulons contempler ta beauté. Et Allah Azza wa Jal va enlever les voiles entre sa majesté et les gens du paradis. Et dans les hadiths, il est écrit en commentaire que si Allah n'avait pas décidé qu'il ne meure pas foudroyé par la lumière, ben tous les jannatis seraient terrassés par la lumière qui émane d'Allah Azza wa Jal. Allahu nuru samawati wal ard. Et il est dit également que cette vision d'Allah Azza wa Jal, ce moment où les gens du paradis, Allahumma ja'alna minhum, vont contempler Allah, ça leur fera oublier le Jannah. Les gens du Jannah vont oublier le paradis quand ils vont contempler la beauté d'Allah Azza wa Jal. Et après ce moment, combien de temps ça va durer? Inch'Allah, on le verra ensemble. Inch'Allah, on le contemplera. Et là, c'est comme si que le temps s'arrête. Mais dans le delà, le temps s'est déjà arrêté. Il n'y a plus de temps. Mais c'est des moments que la création, une créature ne peut même pas imaginer. Celui devant qui tu te prosternes depuis l'âge de 13-14 ans jusqu'à ta mort, pour qui tu jeûnes, pour qui tu fais le tawaf, tu t'éloignes du haram, tu peux enfin le voir, le rencontrer. Et au-delà de voir Allah Azza wa Jal, il y a les échanges. Allah Azza wa Jal, Allah Rabbul Izzah, va s'entretenir avec chaque personne du paradis. Et Allah va parler avec chacun d'entre nous. Imagine-toi. Tu es dans le Jannah et Allah te parle, subhanallah. Il dit, Ya Fulan, ata'arifu, yawma fa'alta kaza wa kaza, ou kama qal. Il dit, oh, un tel, est-ce que tu rappelles, atadhkuru, plutôt pas ata'arifu, atadhkuru, yawma fa'alta kaza wa kaza, est-ce que tu te souviens, tel jour tu avais fait telle erreur, et telle erreur sur ce dunya. Et la personne va se rappeler, et la personne va avoir une petite crainte, Ya Allah, Oui, mais tu ne m'as pas pardonné. Allah dit bien sûr, Bala, bimaghfirati, ballaghta manzilataka hadi. C'est par mon pardon que tu es arrivé à ce degré. Et là, il est dit qu'après ce moment exceptionnel, il n'y a pas d'adjectif pour le qualifier. Il dit que les gens du Jannah vont se parler entre eux. C'est des gens de différents degrés du Jannah qui ne peuvent pas se côtoyer. Entre Al-Firdaus, Jannat Adn, et les différents marahil du paradis, différentes étapes du paradis, ils vont s'asseoir sur des divans, ils vont parler. Et parmi, ce qui est beau, c'est parmi les conversations des gens du paradis, ils vont se souvenir, Allah mettra de leur cœur, l'instant T où leur vie a basculé. L'instant T où Allah les a acceptés. Il va dire que atadhkuru yawma kadha wa kadha. Est-ce que tu te souviens, c'est à tel moment qu'Allah nous a pardonné. C'est à tel moment qu'Allah a pris une décision pour nous. Et en commentaire, les savants disent que on se souviendra de cet instant. Akhifillah, crée ce moment. Sois acteur de ce moment. Provoque ce moment. Pourquoi ce ne sera pas aujourd'hui, le 27e, ou ce soir, le 28e Ramadan, que tu as fait un tawbah tellement sincère, un tel retour vers Allah, une telle résolution de ne pas retourner vers les péchés, de rester ferme dans les bonnes œuvres, qu'à ce moment-là, en 2016, le 28e Ramadan, Allah t'a accepté, et que ce sera ce moment-là que tu vas citer devant les gens du paradis. Qu'Allah Azza wa Jal nous accepte, mes chers frères et sœurs en islam, durant ce mois béni. Qu'Allah Rabbul Izzah nous permet de compléter ce psaume de Ramadan, ce Shah Ramadan, fitta'a avec istiqama, qu'on ne rate pas un tahajjud jusqu'à la fin, un namaz en jamad, qu'on lise le Coran tous les jours, qu'on ne sombre pas de le moindre des péchés, et qu'Allah nous donne istiqama, fermeté sur ses bonnes résolutions et sur l'éloignement du haram après le mois béni. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne Laylatul Qadr. Allahumma ja'alna mimman yudriku Laylatul Qadr. Ya Allah, qui répond présent à la nuit du destin et qui passe cette nuit en adoration, et qu'Allah nous accorde la récompense de 1000 mois d'adoration. Qu'Allah exauce chaque doua, chaque invocation qu'on a pu faire depuis le début de ce mois, et qu'Allah nous accorde même ce que nous n'avons même pas pensé à demander. Mais Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs, et qu'Allah nous accorde ce qui est le plus enfoui dans notre cœur. Qu'Allah nous donne la fermeté, la qualité de nos a'mal zahir, de nos actions extérieures. Qu'Allah nous accorde istiqama, ikhlas, sabr ala ta'a, sabr ala al-ma'siya, hubbulillah, muraqabatullah, toutes ces qualités intérieures qui nous permettront d'atteindre le degré de piété, et que cette piété reste en nous tout le temps, et qu'on atteint le plus haut degré, le summum, qui est le ihsan, et que ces qualités de foi nous permettent de régler nos a'mal saliha, et nous permettent de régler également notre akhlaq, qu'on devient un rayonnement de bonheur, comme le prophète sallam, kana khuluquhu al-Qur'an, son comportement était le Qur'an, parce que c'était à la base la foi. Qu'Allah nous accorde ce haut degré de foi, inshallah, et que comme là on est réunis dans cette masjid Mubarak, un jour, inshallah, dans le Jannah, dans ce Wadi Afiyah, dans cet endroit, on sera inshallah présent, quel que soit l'endroit, comment ça s'appelle, on sera présent dans le Jannah, on aura contempler la beauté d'Allah, et on parlera, on se souviendra des ayam ou dunya, des efforts qu'on essayait de faire mutuellement pour développer les qualités de foi, et qu'on se souviendra quand est-ce qu'Allah nous a pardonné, que sera inshallah un de ces moments qu'on a passé ensemble. Qu'Allah nous accepte tous, ma tawfiq illa billah, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khair.